ce qu'on se note.
Qu'est-ce que tu mettais dedans?
Je mettais le feu, carrément.
Ça brûle?
Je l'allumais. Ah ouais. Mais pas, c'est pas l'acier qui brûle, c'est, je pense que c'est l'enduit et puis anti-rouille. C'est une graisse, probablement.
Nature,
bonnet
d'acier nature.
Tu as vu
ça, toi?
Je pense que j'en ai peut-être fait, ça regarde aussi un petit. Genre, ouais, à l'intérieur, ah, oh, mais ça, c'était le fun. Ça, c'était la plus belle expérience que j'ai faite avec le feu.
C'était où? Il y en avait mis partout qui pendaient.
C'était primitif, comme
ça. Les gens marchaient au milieu. Alors, tu avais la réflexion des rayons laser. OK, rouge, tout ça, tu avais plongé en noir. Là, il a mis le feu à toutes ces laines d'acier qui montaient. Tu avais les mèches de feu qui se dégageaient, les rayons laser.
Mais c'était pas dangereux pour le feu, ça? Parce que
non.
Ça fait pas une grosse flamme, là. Ça court. Ça court-tu vite? Ou? Je voyais que c'est...
Ça brûle comme une flamèche.
Oui, ça faisait
un. Tu trouvais ça quand même? C'est par hasard?
En faisant une brûlure de matériaux.
J'aurais jamais pensé.
C'est
de la laine
d'acier
qui brûle.
C'est du papier d'aluminium qui brûle. Ça fait des... Surtout ce
qu'on
a fait, ils l'utilisent beaucoup dans les films. Justement, les films qu'on a fait voir, là, c'est des sortes de
braises
qui se font.
Le côté physique, tu sais, des choses. Puis c'était effectivement très physique.
Mais c'est donc chaud que c'est plus impliquant de participation des gens.
Ouais. Que je pense pas que c'était important, tu vois, finalement. En fin de compte, je pense pas que c'était important. De toute façon, je te dirais que les choses que j'ai faites à ce moment-là ont pas été perçues de la façon que moi je les voulais. Et que quand j'ai travaillé avec les lasers, les gens ont toujours passé à côté du problème. Pour eux, ça revenait toujours un problème d'art et technologie. Et ce qui, moi, m'emmerdait, parce que finalement, ça n'a aucune importance en soi.
Non,
pour moi, ça
n'en
avait
pas,
tu sais. Le fait que ce soit un instrument scientifique ne valorisait pas l'affaire. Pense-toi, tu sais. Puis ça passait à côté. Fait que je me suis dit que finalement, j'avais. De toute façon, il était devenu impossible de travailler avec ces choses-là parce que c'était bien trop coûteux. Puis je n'avais pas une condition sociale qui me permettait de travailler avec ça. Ça fait que je me suis dit, je ne suis pas correct dans ça, dans mon affaire. Je suis en train de travailler avec quelque chose qui serait de. Tu sais, qui ne correspond pas à ce que je suis dans la réalité, socialement. Fait que là, j'ai une approche très, très humble. Je me sers du carton, du treillis, des affaires qui ne coûtent presque rien.
C'est un peu l'impression que j'avais eue en vrai. C'est que le médium, il est tellement fort, là, que tu n'es pas capable de t'abstraire du fait que c'est un instrument technologique. Puis je voyais la réaction des gens.
J'ai arrêté un an, c'est pas pour rien. Je veux dire, je suis arrivé, je me suis placé dans un cul-de-sac, tu sais. Et puis j'ai arrêté ça, là. Puis de toute façon, il se passait bien les affaires dans les mouvements, un peu partout, tu sais, des idées en Allemagne, aux États-Unis. J'ai dit, bon, j'arrête. Puis je me suis engagé dans un nombre X de recherches. Je pense que j'ai un cul-de-sac. De toute façon, même si j'avais continué, j'aurais répété une formule, ce qui n'est pas intéressant, tu sais. Je me suis dit, bon, j'oublie ça. Je ne retoucherai peut-être plus jamais de ma vie, ou peut-être je recommencerai. Puis un an après, tu vois, je recommencerai.
Ça, c'est quoi, ces différentes photos? C'est la même chose, ouais. Différents moments qu'après?
C'est ça.
Comment ça t'a fait? Tu t'as accroché sur
le treillis? Ça, c'est la grille à Sauvegarde, une grosse grille dans le parking en métal. Puis j'avais toute sa graine d'acier là-dessus.
Dans la
grille. C'est un gros mur.
Tu as mis le feu en même temps en bas. Le feu a couru différemment.
Mais
ça fuse. Mais l'essayer.
Ça éclatait, ça tombait, tu sais, parce qu'évidemment, c'est.
Il y avait des flammes
qui partaient.
Oui, c'est
ça.
Je me souviendrai tout le temps, ce soir, un des soirs, je ne sais pas si c'est le soir que tu étais là, Laurent Lamy était venu.
Oui, il était là, exactement.
T'étais là ce soir-là, puis j'avais une espèce de machine diabolique à faire de la boucane. Je ne sais pas si tu te souviens de ça.
J'ai essayé de la faire marcher.
Puis mon Laurent Lamy, il s'avance vers la machine, puis là, elle se met à partir, puis il sort une boucane écœurante. Je pensais qu'il était pour mourir, ça.
Ah oui, je me souviens. Mais dans la neige, tu avais envoyé ta fumée. Puis qu'est-ce que tu avais fait d'autre? Tu avais envoyé des spots à fumer, c'est tout. Tu n'es plus. Il y avait. Depuis qu'est-ce qu'on a eu la neige là?
Oui, il y avait des rayons laser. Il était difficile à voir parce que cette machine-là ne fonctionnait pas très bien. Il aurait fallu que j'aie autre chose.
Moi,
je souhaitais beaucoup qu'il neige parce qu'en fait, l'idée de ça, c'est.
De le faire dans la neige.
Dans la neige. La neige aurait révélé les
rayons.
Oui,
c'est ça
qui aurait été l'intérêt. T'sais.
Mais tu travailles toujours comme avec des sortes d'éléments, de même le plexiglas, ça a quand même que la façon transparente. ramène à des femmes qui sont en fait qui sont vraiment ton travail à toi. Ils n'ont pas toujours de la même manière. Donc la main est plus légère la main.
Oui, c'est différent parce que c'est les lasers, c'est les systèmes énergétiques dans le fond, tu sais, c'est l'énergie qui m'intéressait. Sauf que maintenant, je pense pas que c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse plus, c'est le type, une sorte d'activité sur des matériaux, tu sais, une sorte de manipulation. Mais ce qui m'intéresse encore, c'est l'aspect physique de ces choses-là.
Parce que dans le papier que tu as écrit là, pour la discussion des cures, ça, tu parles de participation du spectateur, de toucher, etc. Tu parles pas de ça, de manipulation?
C'est ma manipulation à moi.
Ta manipulation à toi.
Oui.
Il n'y a pas au niveau du toucher. Parce que c'est vraiment abstrait, hein, c'est bien bidimensionnel, surtout que tu mets par-dessus une plaque de verre, et que si là, je peux.
Je sais pas, c'est. Pour moi, pour comprendre le sens de ces choses-là, quand je dis que c'est physique, c'est-à-dire que pour moi, c'est un effort d'abandonner l'illusion en or.
Ouais, c'est en bas.
Et ce que j'essaie de faire, c'est des choses qui ont une présence physique, puis qui n'ont aucune connotation, qui ne t'envoient à rien de ce qui t'est connu. Ça fait référence à rien. Et en même temps, ça ne joue pas comme dans l'art traditionnel, par exemple, en ce sens que le tableau, c'est un système d'illusion, c'est une fenêtre, avec des parties qui s'avancent et des parties qui reculent dans le tableau. Puis là, il n'y a pas d'illusion, l'illusion est abandonnée, puis le support est très important.
Tu dis l'illusion de connotation symbolique extérieure?
Les illusions elles-mêmes, comme dans un tableau cubiste ou dans un tableau abstrait, tu as tout un système d'illusions. Enfin, un jaune se place en arrière, puis il peut se placer en avant aussi. Un tableau de Kooning, c'est ça l'histoire d'un tableau de Kooning. C'est le vieux problème que Matisse faisait. Enfin, placer les rouges en arrière et en avant, tu sais, avec des bleus qui se situent en ça, puis ramener un bleu par en avant. C'est tout le système de champ de profondeur. Ben, il n'y en a pas. J'ai tout réduit à des surfaces. Puis aussi le côté qui est traditionnel aussi.
Est-ce que c'est vraiment une illusion, le fait qu'une couleur vient par rapport à elle, ou tout simplement elle s'appelle une
illusion? C'est une illusion. C'est une illusion.
Est-ce que je peux parler?
Oui, oui. Est-ce que tu es en train d'enregistrer? Ah? Pour moi, un tableau de Molinerie, tu sais, les couleurs se placent, hein, sur sa toile, c'est orangé, c'est bleu, c'est rouge, ça, elles se placent d'elles-mêmes, les couleurs. Et en plus de ça, par leur juxtaposition, tu arrives à les déplacer, c'est-à-dire que habituellement un jaune, tu le perçois tout de suite en avant d'un bleu. Mais par le fait que tu travailles ton tableau d'une certaine façon, là, tu peux arriver que ton jaune se situe par en arrière, puis est perçu par en arrière. Et dans ce sens-là, moi, j'ai voulu abandonner ça et de développer des choses qui n'avaient aucune profondeur. C'est-à-dire d'arrêter d'impliquer qu'un tableau, là, c'est une fenêtre. Moi, je pars de l'idée que d'un tableau, c'est carré, puis c'est une surface, puis c'est appliqué sur le mur, c'est posé sur le mur. Il n'y en a pas d'illusion. Je ne respecte pas les règles du jeu de la peinture traditionnelle. Puis en même temps, je veux que ces choses-là n'aient pas de connotation. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas symboliques. Ce que c'est, en fait, c'est du process. C'est une activité. C'est mon activité. C'est ça, quand on fait sur la feuille, il était question de manipulation. Je parlais d'une manipulation que je fais sur une intervention que je fais sur ces matériaux-là.
Là, tes grilles, là, qu'est-ce que c'est l'enduit que tu souffles la peinture ou
ça, c'est de la terre glace.
La terre glace. Facilement manipulable pour toi, là, je veux dire, tu dois avoir un processus de détérioration à un moment donné, si tu tu les transportes trop souvent?
Tu peux pas le transporter?
Tu peux pas le transporter parce que tu t'es collé, c'est collé sur le plancher.
Non.
Mais quand tu fais ton exposition comme un véhicule, qu'est-ce que tu as fait?
J'ai enlevé les grilles, j'ai nettoyé le plancher, puis ça a fini. Là, la pièce n'existe pas. Elle existe à partir du moment où je l'installe dans la pièce. Là, je l'ai refait ici pour le faire. Parce que c'est la pièce que j'aimais le mieux des pièces que j'ai mis avec. De toutes les autres, il y en a que j'ai détruites, puis il y en a que je ne veux plus voir. Mais celle-là, je la trouve, je sais que c'est celle qui est importante. C'est là que c'était la dernière, puis c'est là que j'étais arrivé. Et là, j'ai changé le problème. Là, j'ai commencé à m'amuser avec des choses sur, qui sont au mur, puis éventuellement, je vais probablement travailler sur le mur direct. Comme j'étais arrivé à travailler sur le plancher directement avec mes choses, ça a commencé avec des plaques de bois. Déjà, je travaillais sur des surfaces, tandis que tout à coup, c'est devenu le plancher. Ouais. Fait que la même chose, j'imagine qu'éventuellement, là, je vais arriver à travailler directement sur le mur.
Parce qu'il me semble qu'il y a pas une grosse connotation entre ce qui est sur le mur et ce qui est sur le plancher. Je vois pratiquement, là,
ça
ressemble. Autant
c'est oui. Mais... Ça, c'est des choses récentes et c'est des choses qui sont partielles parce que ce panneau-là, là, le grand, il est composé de 6 unités et puis il y a 6 blocs comme ça. C'est un dessin que personne ne va exposer. Tu sais, je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. Alors, ça s'appelle, enfin, je travaillais sur l'idée transfini, parce que transfini, c'est supposé être un nombre ordinal, c'est-à-dire que ça serait l'unité de base, une sorte de séquence.
Mm-hmm.
Fait qu'un panneau, 27 pouces par 27 pouces, il est répété 6 fois.
Mm-hmm.
Puis 6 fois, le bloc est répété dans l'espace.
Mm-hmm.
Fait que le dessin, ce que j'implique, c'est que mon dessin, c'est pas une unité fermée en lui-même, mais c'est 6, mais 6 implique l'idée d'infinité. De deux façons, parce qu'à l'intérieur d'un bloc, il est répété 6 fois, puis il est répété 6 fois dans l'espace.
Mm-hmm.
Je retravaille avec une vieille idée de Brancusi. D'ailleurs, je commence à trouver ce gars-là le plus intéressant au 20e siècle.
Ouais.
Ouais. Un sculpteur fantastique.
Mm-hmm. Et Lise Contois a toujours, je pense, une grosse admiration, je me trompe pas.
C'est possible, ouais.
Quand tu étais au Beaux-Arts, tu sais.
J'ai pas connu Lise.
Parce que même tes autres dessins, je reviens.
Vraiment que je le côtoie tous les jours, je le trouve pas drôle, mais.
Non.
Je comprends pas son discours.
Tu le côtoies.
Ben, parce qu'on enseigne dans la même institution.
Ah, au cégep?
À Laval, l'université Laval.
Mais t'es pas là tous les jours?
Une journée et demie. Mais les professeurs se voient beaucoup à l'université Laval. On travaille, on fait du team teaching là-bas.
Ah bon?
Mais est-ce que c'est une vision de Marfo, en autant qu'il peut avoir un échange de fonds visuel, soit le noir, soit le beige?
Non. C'est-à-dire que ce qui se passe là-dedans, c'est que le fait que je laisse, que je frotte pas le graphite jusqu'aux parois, là,
c'est
pour que tu sois conscient que c'est du carton. D'accord? C'est du carton. Le fait que j'ai poinçonné une grille dedans aussi, ça agit comme des signes de ce que sont ces choses-là. Alors, tu es consciente qu'il s'agit d'une couche de noir, puis qu'il s'agit d'une couche de noir sur du carton. Et en même temps, ce que j'obtiens en faisant un trou dans la surface, c'est pas une chose qui est dessinée, tu sais, c'est une façon physique de dessiner. Comme les lignes que j'obtiens entre chaque unité, c'est une ligne qui est physique, et c'est plus une ligne qui est dessinée. Et c'est ça qui m'intéresse, tu vois, c'est ça que j'implique par le côté physique. C'est ça. Fait que la ligne vient par assemblage, elle vient par le processus de travail. Tu sais, tout vient par le processus de travail. Enfin, j'essaie, tu sais, de...
Est-ce que...
Tu essaies de le laisser faire.
C'est ça. Oui. Dès que j'ai confiance.
Je connais pas la technique, mais je dirais
c'est propre.
Ça aussi, c'est très important.
Oui. C'est ça que je valorise, que tu identifies tout de suite les choses.
Mm-hmm.
Donc, je trouve ça logique que si je ne travaille plus avec l'illusion, dans ce sens-là, il n'y a plus de mystère dans les choses. J'essaie que tu aies une certaine authenticité, que les choses, que ce que tu vois là, c'est de ça qu'il est question.
Ouais.
Et que ce soit simple et facilement identifiable. Mais, sans que ce soit simpliste.
Mais après ça, quand tu m'expliques que ces tableaux-là sont sont transmachines,
j'avoue
que si tu ne l'avais pas expliqué, moi, je
ne la faisais pas la relation ici, quatre tableaux,
là, dans
ma ça, c'est les esquisses, hein? C'est les esquisses que j'ai faites.
Mais est-ce que la série devient importante,
c'est l'intérieur de l'esquisse? Enfin, c'est toute la question que je suis en train de débattre. T'sais, je n'ai pas nécessairement les réponses, mais après l'exposition, je veux dire que ce qui était... je pense qu'il était évident, c'est que je travaillais à partir de répétitions. Hein? Bon. Pourquoi je fais ça? Parce que j'essaie de faire entrer là-dedans une notion d'incliné. J'amène les choses, véhicule cette notion-là. C'était pas évident dans l'exposition de véhicule. Et là, je pose le problème différemment. Je pense qu'avec ce dessin-là, ça va devenir évident. Le fait qu'il se répète à l'intérieur d'un bloc et que le bloc se répète. C'est pour ça que je trouve Brancusi intéressant, parce qu'il a fait sa colonne sans fin.
Ouais.
Pourquoi on dit la colonne sans fin? Parce que à partir d'un certain moment, il y a des choses qui impliquent la notion d'infini. C'est ça que je cherche. Trouver le moyen d'impliquer ça, sans faire le geste absurde de répéter ça à l'infini.
Ouais.
Et c'est ça là que je suis pas certain que la pièce de la Terre, tu la vois en termes d'infini. Tandis que celle qui est sur le mur, j'espère qu'avec les six blocs, ça va véhiculer naturellement cette notion-là. Ça va devenir évident qu'il s'agit de répétitions, puis de répétitions qui pourraient se continuer à l'infini. Tu n'es pas obligé de le faire. C'est déjà tout implicite.
D'ailleurs, c'est curieux que les chèques sont toujours employés pour signifier l'infini sur le 6 et 9.
Sur 6 et 9?
C'est
pas ça. Je suis arrivé à arrêter ça à 6. Il y a quelque chose de magique hein, dans les chiffres. Tu sais, quand même, je me suis aperçu que malgré que j'ai poinçonné 81 trous, puis l'affaire à 81 pouces, les trois panneaux quand ils sont rassemblés. Tu sais? Et je trouve ça intéressant qu'il y ait des rapports comme ça mathématiques. Tu sais,
Comme là, je le vois en 6, mais j'ai toujours comme si j'entendais ça
pour être
9. Oui.
Mais j'ai abandonné l'idée, je l'avais fait avec 9 panneaux, tu sais, en petite esquisse. Et j'ai abandonné l'idée de ça parce que ça avait tendance à faire une croix au centre, tu sais, parce que t'as les coupures comme ça. Et j'aimais pas, là, si tu vois, ça commençait à symboliser quelque chose. Alors j'ai ôté ça pour que ça demeure quelque chose que tu puisses pas dire que c'est le symbole de quelque chose. Je voudrais pas que ça se mette à ressembler à du Reinhardt, par exemple, tu sais, que ça devienne une espèce de signe absolu de crucifixion, tu sais. Non. Surtout que le noir, déjà, pourrait être chargé, pourrait devenir chargé à ce moment-là, tu sais, devenir très symbolique.
À ce moment-là, quand tu fais l'exposition, étant donné que le process est très important, tu le fais là-bas, mais avant que l'exposition s'ouvre et on a le résultat du process. Mais tu n'as jamais le goût de le faire pendant l'exposition. T'sais, au lieu comme si tu dessines sur le mur, dessiner pendant l'exposition, tu sais, de les faire là, puis même à un moment donné, tu en effaces un, tu en fais un autre. Alors, même là, tu crées un dynamisme.
Ça pourrait être. Il pourrait y avoir un rapport intéressant dans ce sens-là. Mm. Mais qui va te laisser jouer dans sa galerie, tu sais? c'est tout le problème. Oui. Tu sais, je ne sais pas pour aller faire ça sur le tapis de Martha, tu n'avais rien savoir.
Ouais.
Tu n'avais rien savoir de ça.
Ah, oui, c'est
un beau tapis propre. Tu n'es pas pour aller faire ça
mais
sur son tapis.
À ce moment-là, comme maintenant, tes pièces, moi, je dis, sont peut-être un peu de temps d'utilisation des matériaux, etc. Dans le
minimum.
Tes pièces, même si
elles. Je pense qu'il s'agit de post-formalistes. Je veux dire, si on voulait chercher une école, en quelque part. Je me sens pas isolé parce que je suis pas le premier à jouer avec ces idées-là. Mais c'est Robert Ryman, c'est le gars qui applique du blanc. Tu sais, c'est
Robert
Ryman.
Robert
Ryman. Mais c'est ce qu'on appelle habituellement le post-formalisme. Ryman, oui.
De toute façon, t'as un gars qui est pas mal, t'as ça pour
Je pense que quand tu enseignes, il faut que tu sois informé. Ouais. Sinon, tu es un bien mauvais professeur, parce qu'on fait pas de... C'est fini l'époque où on avait des... T'avais des disciples, tu sais. Matisse pouvait se permettre d'avoir des disciples, par exemple. Tu sais, il pouvait avoir des gars qui venaient dans l'atelier et qui travaillaient d'après Matisse, selon la manière de Matisse. Mais aujourd'hui, tu peux plus fonctionner comme ça. Les mouvements succèdent très rapidement. T'as pas une chose qui est échelonnée dans le temps, comme auparavant. Fait que les étudiants, de toute façon, au stage où moi j'ai aisé, ils ont déjà deux ans de cégep. Puis deux années d'université. J'ai en deuxième année.
Comment tu t'enseignes?
Tu enseignes
à l'université là-bas?
Oui. Seulement? Oui, j'enseignais aussi un petit peu là.
L'an dernier, hein?
Oui.
Donc, cette année, c'est rien que l'université là-bas.
Oui.
Et tu sais ce que
tu enseignes? Sculpture. C'est difficile. Tu sais, c'est difficile et décevant. Je trouve ça difficile d'établir des rapports avec les étudiants.
Mm-hmm. Pourquoi c'est...
Je ne sais pas si c'est particulier à Québec. Les expériences dans l'enseignement que j'ai eues à Montréal étaient plus intéressantes que celles que j'ai à Québec.
Mm-hmm.
Je reste à Québec parce que c'est le seul endroit où il y a un niveau intellectuel qui est intéressant. Parce que j'ai enseigné à l'Université du Québec, par exemple, puis j'ai trouvé ça affreux. Je trouvais que la formation qu'on donnait aux individus était affreuse.
Ah non?
Oui. Était épouvantable. Elle n'avait pas changé de la formation que j'avais eue, que je considérais que j'avais eu une formation très, très pauvre. Puis des fois, je me demande si je ne suis pas un autodidacte, parce que donner une formation de même, ça n'a pas de sens. Okay. Fait que là-bas, je trouve ça intéressant parce qu'il y a effectivement une génération de gars très jeunes, puis entre nous, on discute, puis c'était la première fois de ma vie que je rencontrais des gens avec qui je pouvais discuter d'art. Tu sais, une quantité aussi considérable.
Fait que là, t'entends parler, mais en fait, tu discutes d'art avec des gens de Montréal qui travaillent à Québec.
Oui, même il y a des gars de Québec qui sont là.
Mais avec des professeurs?
Oui. Avec les étudiants, comme je te dis, c'est très difficile parce qu'ils ont l'air d'établir une sorte de frontière. À partir du moment où tu es un professeur, tu vois, on ne te parle pas. Tu sais. C'est difficile.
Mais toi, tu es battu en position de problématique. Tu es battu certaines problématiques
que c'est pour ça que ça m'intéresse l'Université Laval, parce qu'on essaie de faire des artistes, en tout cas, qui soient plus analytiques. Je pense que c'est ce qui manque au milieu francophone. Et je pense qu'on a eu une mauvaise formation. Puis c'est pour ça que je te dis, c'est la première fois que je rencontrais autant de gens avec qui je pouvais parler d'art, puis qui étaient au courant de ce qui se faisait.
Fait que toi-même, par rapport à ton travail, c'était
quoi
ton mouvement?
Ouais.
C'est
le bon vieux principe, tu sais, que quand tu es un bon joueur de hockey, si tu joues avec des gars qui sont plus faibles que toi, tu t'améliores pas, hein, même que tu vas descendre.
Mm-hmm.
Si tu joues avec des gars plus forts, tu sais, il y a quelque chose qui se passe, là, tu vas apprendre quelque chose en quelque part. C'est là que tu te dépasses finalement. Puis le fait d'être à Québec, pour moi, ça agit comme ça, parce qu'il y a effectivement des gars là, qui intellectuellement sont assez forts, sont assez intéressants. Fait que je trouve ça bien stimulant. C'est pour ça que le milieu, à qui je pense à Claude Mongrain, par exemple, que je trouve assez intéressant, ou le type avec qui j'enseigne, avec qui je fais du team teaching, qui n'est pas un gars qui fait beaucoup d'objets. Je pense que c'est peut-être un pédagogue plus que d'autres choses, mais intellectuellement, très, très solide.
Tu parles de parents?
Non, parents aussi est intéressant, mais je parle d'un gars qui s'appelle Naylor. Naylor. C'est un gars qui vient de l'Ouest. Il n'est pas connu, tu sais, il fait pas de... Mais c'est dans le même sens que Montréal, je trouve ça plat, parce qu'il y a peut-être une dizaine de personnes avec qui tu peux parler. C'est un petit peu pourquoi j'étais allé à Véhicule. Parce qu'à Véhicule, les gens que je rencontrais là, on pouvait parler. Tu sais. Il y avait quelque chose là, qui se passait. Intellectuellement, c'est stimulant. Parce que moi, j'ai trouvé, en tout cas, que À partir du moment où j'ai quitté l'école des Beaux-Anges, j'étais assez isolé. Tu sais, je me suis retrouvé à la commission des écoles catholiques, c'était ma première job. Puis peu en contact avec des gens qui partageaient des opinions que j'avais sur l'art.
Ouais. Puis toujours, toute ta carrière d'enseignant a été dans le domaine des arts plastiques.
Oui. Tu es resté combien de temps ici?
3 ans. Jusqu'au moment où j'en pouvais plus. La deuxième année, j'étais écœuré, j'étais plus capable. La troisième année, c'était vraiment l'effort suprême. Là, j'ai fait une demande de bourse cette année-là. Là, je trouvais ça vraiment très pénible. Puis quand j'ai eu ma bourse, j'ai même pas fait la fin de l'année, j'ai quitté tout de suite. Il restait 2 mois avant la fin de l'année où j'ai quitté. Je pense que moi, j'aurais passé. T'sais, rester une autre année, je pense que je laissais ma peau là.
Puis ta bourse, ça t'a vraiment aidé?
Ça m'a permis de prendre un an, tu sais, puis... De chercher ailleurs et de pouvoir, ben, là où je me suis accroché quelques cours dans le cégep, un cours à l'Université du Québec, puis je pouvais me débrouiller, tu sais, avec ma bourse, tu sais, puis là, tu...
Est-ce que tu reçois souvent des bourses ou t'en as reçu quelques?
J'en ai reçu 2.
Parce que t'en demandes à tous les ans?
Non.
Tu conseilles les arts, ça?
J'aime pas l'idée de demander des bourses.
Pour...
Ben, j'aime mieux gagner ma croûte. Je me sens mieux.
Arts, hein?
Oui.
Pas de problème,
non.
Tu sais qu'est-ce que j'ai fait, ça? C'est une idée, toi.
Au Québec, on n'a pas.
On ne l'a pas trouvé
encore. Encore l'aide à création, on n'a pas fait de bourse. Si on venait, là, dans le temps que tu étais au Beaux-Arts, tu étais en sculpture à ce moment-là aussi?
Non, je suis en peinture.
En peinture.
Ouais.
Qui est-ce qui était là? Tu as été là de 64, 69. Avec qui tu as étudié dans le temps, là, tu sais, dont tu te souviens?
Je me souviens de tous les gens qui m'ont enseigné.
Mais il y en a un qui m'a...
Oui, il y a un gars que j'ai trouvé le fun, c'était Maurice Raymond.
Maurice Raymond, je
ne connais pas. C'est plus un pédagogue qu'un peintre.
Ouais.
Je pense que c'est lui qui accordait le plus de son temps, le plus d'énergie aux étudiants. Le Tanancourt était toujours perdu dans des discours où il s'écoutait parler. Et puis, il racontait des choses pour un bon
puis,
il racontait des choses qui n'étaient pas tellement intéressantes. Je ne sais pas combien de fois il m'a raconté que ses toiles étaient bâties selon le principe des nids d'abeilles. Puis qu'il pouvait marcher sur ses toiles. Moi, je le trouvais plat, tu sais.
Ouais.
Mais Maurice Raymond était intéressant. Suzanne Rivard était un professeur intéressant aussi.
Mm-hmm.
Donc,
les autres,
c'est ça.
Ah, il est revenu la semaine dernière. Oui. Moi-même, il est revenu à des expositions. Tu sais, je pense que c'est le seul des profs que j'ai eu. Si jamais il s'est déplacé pour aller voir une exposition,
ouais.
Puis il n'était pas d'accord jamais avec ce que je faisais, mais au moins il venait, tu sais,
ouais.
Puis on jasait un peu. Puis je sais pas, il y avait un contact avec ce gars-là que les autres, j'ai jamais eu. Puis pourtant, j'ai connu des gars qui sont supposés être bien le fun. Tu sais, Ayot m'a enseigné. Et je veux dire, ils ne voulaient pas discuter de nos images.
Ouais.
Ouais, moi, je ne voulais pas parler technique. Je dis, OK, montre-moi comment faire une gravure. Mais ce qui est intéressant à l'École des Beaux-Arts, c'est que quelqu'un parle des images que tu es en train de faire, pour que tu arrives à comprendre ce que tu es en train de faire, te donner des clés un peu, tu sais. Mais jamais, jamais ce gars-là, Wolf, était comme ça. C'est vraiment un refus de se compromettre même. Tu sais, tu peux faire une erreur en discutant des images de quelqu'un et dire, ben, tu sais, je pense qu'il s'agit de ça, puis de ça, puis tu peux te fourrer complètement. Ces gars-là ne voulaient pas s'impliquer à ce niveau-là.
Mais comment t'en es arrivé à aller à l'École des Beaux-Arts? T'en faisais déjà avant ou t'as commencé?
Oh, j'en faisais chez moi, comme ça. Je garochais la peinture. Mais ce qui m'a parti, c'est Bordure. Que j'ai pas connu, mais c'est une toile de Bordure qui m'a... Parce que jusqu'à 22-23 ans, je faisais n'importe quoi dans la vie, tu sais, n'importe quel job. Puis je suis allé au Musée des Beaux-Arts une journée, puis j'ai vu une toile de Bordure. Puis c'est la première fois de ma vie que j'ai compris que la peinture, c'était pas une représentation visuelle, tu sais, de la réalité. Que la peinture, c'était autre chose que ça. C'est que moi, j'avais toujours, c'est une notion que j'avais probablement de mon éducation, de mon milieu familial, que la peinture, tu sais, c'est une question de dextérité. Tu étais là à reproduire visuellement ce qu'était la réalité. Et quand j'ai vu l'étoile de Bordeaux, j'ai compris que c'était autre chose.
Quoi?
Que c'était une question d'idée. Que finalement, c'est de ça qu'il était question. Et que ça dépassait la simple représentation, l'imagerie.
Tu peux parler d'un sens de construction?
Je ne comprends pas ce que tu impliques. Par... Fait que c'est ça, ma partie.
Quand tu es rentré au Beaux-Arts, déjà...
La première année, ils m'ont refusé.
Donc,
oui. La première année, ils ont dit que je n'ai pas de talent, puis ils m'ont refusé. Je n'ai pas fait l'examen.
Mais... Ah, t'as été refusé en première année?
J'ai été refusé en première année. Là, j'ai
refusé?
C'est Maurice Raymond, d'ailleurs, qui était directeur de l'école. Et, fait que je suis allé le soir à l'école des Beaux-Arts, c'était facile, il n'y a pas d'examen. Je me suis inscrit en première année. Un mois après, ils m'ont mis en deuxième année. Puis au milieu de l'année, ils m'ont mis en troisième année. Fait que là, j'ai dit, là, je comprends plus. Là. Quelque chose ne marche pas. Le soir, je suis un génie. Puis le jour, je n'ai pas de talent. Fait que l'année après, je me suis réinscrit parce que le soir, on ne te donnait pas de crédit à ce moment-là. C'était pour... Il y avait toutes sortes de monde là-dedans. Fait que je suis allé le jour, puis là, ils m'ont fait passer. Là, ça avait l'air que c'était correct.
Ouais.
Fait que je ne sais pas sur quoi reposer l'examen, tu sais.
T'es rentré là
à 24
ans?
Fait que quand je suis rentré à l'École des Beaux-Arts, j'avais 24 ans.
Puis à ce moment-là, t'avais déjà découvert
Bordura? Ouais.
Tu te souviens-tu de celle de la toile de Bordura?
Oui, c'est une des... De...
C'est dernière, période noire-blanche?
C'est les noires blanches.
L'étoile noire, peut-être?
Je pense que c'est l'étoile noire qui est là.
Qui était dans la salle de
ça fait partie de la collection...
Permanente, c'est l'étoile noire.
Il y avait d'autres choses, il y avait un Riopel, il y avait d'autres affaires.
Oui, un Desjardins, de
Pellance. Mais ces choses-là, je ne sais pas m'indiquer rien. C'est vraiment, Bordeaux, j'ai vraiment accroché là-dessus. Pour moi, ça a été... Enfin, à partir de ce moment-là, j'ai commencé tout de suite à m'interroger.
Parce que j'ai la misère là-dessus parce que tu sautes du support matériel et t'amènes des idées en disant, j'ai compris que c'était la terre des idées. Mais tu as opéré ça à travers toi.
Parce que tu penses que ça, il n'y a pas d'idée?
Non, c'est pas ça. La perception que j'ai eu du Bordeaux, là. Le déclenchement, c'est particulier sur quoi tu as une idée?
Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai impliqué tout à l'heure, c'est que pour moi, la peinture, la notion que j'avais, du oui, milieu familial, c'est une représentation fidèle, photographique de la réalité.
Et tu veux quand même parler parce que
Bordeaux, ça l'était pas et ça avait des connotations, tu sais. Et j'ai compris qu'il y avait autre chose dans la peinture, que c'était une aventure intellectuelle, finalement. T'sais. Que c'était pas simplement une question d'habileté. Chose que j'avais pas. T'sais, une habileté, je l'avais pas.
D'accord.
Je l'ai développé avec le temps. Mais c'est sur ça que j'ai déclenché. Finalement, ça venait...
Des observations, hein?
Je suis revenu à la... Non. J'avais jamais vu de peinture. Tu sais, je veux dire, j'avais une ignorance complète de la peinture. Tu sais, je veux dire, je suis une victime de la pauvreté intellectuelle d'un milieu, tu sais, dans le fond.
Ben, les idées de l'ignorance, je pense que c'est...
Oui. Tu sais, ou une mauvaise conception.
Moi, c'est avec Mondrian. J'ai vu Mondrian parce que c'était une annonce de l'Éléon. J'ai vu ce qu'il J'ai dit que là, c'est pas nécessaire d'avoir décidé de faire de la peinture. J'ai compris. Ça, je te disais le mot construction. J'ai compris qu'il y avait des idées en troisième lieu. En deuxième lieu, j'ai compris qu'on peut construire avec des idées.
Ouais.
Tu construis quand même. Tu sais, dans le sens concret, je veux dire, hein, tu prends pas du noir, tu prends là parce que le graphite est noir. S'il était jaune, ce serait jaune, tes affaires. Tu construis en aussi. On se comprend?
D'ailleurs, je trouve ça intéressant ce que tu dis là, parce que c'est une autre des choses avec lesquelles j'essaie de rompre, tu sais. C'est l'idée d'être tellement vrai que de ne pas colorer les choses.
Ah oui, c'est ça.
Mais si la terre est rouge, c'est parce que ça fait partie du matériau lui-même. Et si j'emploie le graphite, je ne pourrais jamais arriver avec des choses bleues, là, ils sont noirs, ils sont authentiques. Ouais. Pour moi, il y a un rapport honnête entre les choses que j'utilise et ce que je fais avec, tu sais. Et ça ne veut pas représenter rien d'autre que ce que c'est, dans le fond. C'est très rigoureux, tu sais. Je ne sais pas si c'est bon ou non, mais en tout cas, dans ce sens-là, j'essaie de venir rigoureusement à ça, une fidélité par rapport à ce que je manipule.
Ouais.
Moi, je veux suivre ton évolution, là, on continue. Donc, tu laisses l'imagerie tranquillement, tu te rends compte que la peinture, c'est quelque chose qui est intellectuel. Oui. Fait quand tu rentres au Beaux-Arts, là, tu as déjà fait ce transfert-là.
C'est-à-dire que là, j'ai vu pas mal de peintures abstraites, déjà même avant de rentrer à l'école. J'ai lu le Refus global,
ouais.
Qui d'ailleurs était difficile à trouver. Et ça, c'est trouvé parce que quelqu'un avait polycopié les feuilles, puis c'est par hasard que j'ai finalement trouvé ça. Mais parce que finalement, j'en reviens à l'idée que j'avais compris que la peinture, c'est d'autres choses, puis je me suis dit, ce que Bourdieu fait, il y a une raison pour laquelle il fait, puis il y a quelque chose là-dedans. Tu sais, je veux savoir le pourquoi. Et c'est ça, finalement, qui est intéressant. C'est ça que l'École des Beaux-Arts m'a jamais donné.
Ouais. C'est dans cette mesure-là où tu deviens autodidacte?
Dans cette mesure-là, je trouve qu'on est presque des autodidactes si on a fait 3 ou 4 années là-dedans, parce que ça se peut pas, la pauvreté de ça. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment, si tu réussis quelque chose, c'est parce que tu es probablement curieux dans la vie, puis tu veux, tu sais, je veux dire, t'aimes ça se peut plus comme affaire, tu cherches.
Ouais.
Puis tu trouves par toi-même, parce que les personnes n'ont pour te donner les clés ici. Même j'irais tellement loin, tu sais, que je suis convaincu que les gars qui m'ont enseigné, il y en a beaucoup qui ne voulaient pas nous voir sur le marché du travail. Tu sais, je pense qu'ils ne voulaient pas nous voir travailler les mêmes plates-bandes qu'eux autres. Puis d'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler et à exposer régulièrement, on a commencé à me descendre à l'Université du Québec. Les professeurs ont commencé à dire à des étudiants qui avaient été voir mes choses que ça ne valait pas de la merde, que c'était facile de mettre des rayons laser dans l'espace. Je veux dire, c'est le même argument qui servait qu'on a servi aux peintres abstraits les premiers à lancer de la peinture sur une toile, c'est facile.
Ouais.
Fait que c'est pauvre en maudit comme argument devant une étudiante. Tu sais, c'est ça, je te parle d'une pauvreté intellectuelle.
Pauvreté intellectuelle, hein? C'est le mot que j'enseigne tout ça. Le cours s'appelle réflexion sur l'ordre, il y en a qui ont dit, vous savez, il y a un cours qui est subversif. Les professeurs ont dit qu'il est subversif. Parce que la conscience, c'est vraiment d'amener les gens à réfléchir sur ça.
Est-ce qu'il y a de l'eau dans ici quelque part?
Oui, j'ai même de la bière. Ça le tente-tu d'avoir de la bière?
Oui, en as-tu?
Oui, j'en ai. J'en ai acheté, mais j'ai pensé qu'on aurait peut-être soif.
Ouais.
Je pense qu'on
a fait.
Enfin, il fallait prendre des cours. Et ce que j'ai eu, c'est Boivin et Dreyfus. Dreyfus, ça a été un engueulage jusqu'à la fin. J'ai refusé de travailler comme ça.
J'ai pas occupé l'atelier.
Toute sa conception des choses reposait sur une conception anthropomorphologique. Puis je compte ça en art. Je suis contre ça. Tu sais, je veux pas faire des objets comme ça.
Je ne sais pas qu'est-ce que
tu as comme
ça.
C'était pas comme ça.
C'était pas les
reliefs, les notes. Oui, oui. Faisais travailler du papier. Puis... Non, c'était une bonne année, mais je ne sais pas comment l'évaluer parce que c'était ma première année que j'ai fait avec Boivin. C'est toujours le fun une première année parce que tu découvres les affaires. Tu es excité. Avec Boivin, ça allait.
Moi, je ramène tout le temps. Maintenant, il faut que je suive, je veux dire, si on veut suivre là, l'évolution du travail.
On est à l'heure, je veux dire, parce que Toupin a dit que c'est une démarche plus originale en sculpture, on parle mieux par le Boivin, parce que Boivin faisait faire dans les reliefs, des choses comme ça, où on vraiment une surface, où on décollait des parties. T'sais. C'était papier par terre.
De quoi tu parles?
C'était papier par terre.
Les cartons? Ah ouais. Moi, je veux dire, avec Boivin, j'ai fait une année de modelage.
Ah bon, c'est correct, c'est pas le même cours. Il enseigne le modelage, puis il y a autre chose. C'est autre chose.
Tu sais, moi, j'ai pas connu l'Université du Québec. Hein, c'est l'École des Beaux-Arts.
Non, moi aussi, j'ai connu. Ouais. Non, mais il y avait deux cours. J'ai eu modelage. J'ai subi modelage avec Boivin. Il y avait deux bonhommes. Il y avait modelage, puis il y avait l'autre gars.
En première année, à ce moment-là,
modelage,
c'est...
Modelage, j'étais épais.
C'est ça. J'avais Marie Langlois. Mérola, qui était un bon prof. Pour moi, il m'a appris bien les affaires. Puis Boivin. Puis Boivin, c'était du modelage tout le long. Sauf qu'on a fait quelques constructions avec du papier puis du carton. Mais surtout du modèle, ce qui était intéressant. Oui. À ce moment-là, je trouvais ça correct.
Mais l'évolution de ta peinture à ce moment-là, là, comment, tu sais, de l'imagerie du début à je sais pas ce que tu faisais en peinture à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu une grosse transformation?
Oh, j'ai tout essayé.
C'est-à-dire? As-tu essayé d'imiter Bordura, par exemple?
J'ai fait de l'action painting. Puis je pense qu'on commence tous comme les expressionnistes au début. J'ai commencé comme ça.
Puis quand t'es sorti de là?
Après ça, c'est devenu plus lyrique. C'était plus européen, c'était un peu plus raffiné. Après ça, j'ai fait un petit bout un peu figuratif. J'ai tout abandonné ça.
Qui t'a influencé dans ce temps-là beaucoup, là, pour que tu fasses cette évolution-là? T'as dû avoir des amours spontanés pour certaines personnes.
Après ça, ça a été les peintres américains.
T'es sauté, là, de
ça. Il y a eu Bordua, il y a eu Artaud, que je trouvais intéressant. Puis après ça, il y avait vraiment que les peintres américains que je trouvais...
L'expressionnisme
abstrait. Rothko et Barnett Newman. Tu sais, là, c'est, pour moi, c'est là que ça se passait, que c'était excitant.
Ça, déjà, toi, tu les connaissais à cette époque-là, déjà.
Ouais.
Ça, c'est dû seulement à ta curiosité personnelle, là. C'est bien que tu le trouverais tout.
Ben, c'est-à-dire qu'il fallait posséder un peu d'anglais aussi, si tu veux lire sur l'art, ce que j'avais. Je viens d'un milieu où, enfin, on a toujours côtoyé les anglophones. Fait que je manipulais assez bien la langue pour pouvoir comprendre certains textes, à moins que ça devienne trop corsé, là, ils perdent. Fait que je pouvais avoir assez d'informations, comme... Enfin, j'ai compris tout de suite l'erreur qu'on avait fait, que tous les gars qui ont embarqué dans le pop-art, ici au Québec, ils ont fait une grosse, grosse erreur, parce qu'ils ont passé à côté du problème. Parce que le pop-art tenait beaucoup à l'échelle. S'il n'y a pas d'échelle, c'est insignifiant, le pop-art. C'est d'ailleurs mon opinion sur ce qu'il y a de fait. Il manque le tout.
Regardez l'imagerie.
C'est une victime de ça. Je te dis, c'est pour ça que je dis qu'on... On n'est pas très analytique. Tu sais, il se passe des choses. C'est pour ça qu'il faut aller plus loin que l'image qui est là. Tu as beau rouvrir une revue d'art, tu regardes, tu vois une petite chose comme ça. Là. Il faut aller plus loin que ça. Il faut savoir ce que le gars essaye de faire par ça. C'est les idées qui sont en arrière de ça qui sont intéressantes.
Mais qu'est-ce que tu parles de
l'échelle? Sinon, il n'y a rien d'amusant à prendre une bouteille de bière à la peine à la même échelle qu'elle est dans la réalité. C'est tout le fait vient de l'agrandir.
Ou de la répétition.
Ou de la répétition chez Warhol. C'est ça qui donne une qualité à cette affaire-là. C'est le discours de Marcel Duchamp, puis retravaillé par cette gang-là. Mais c'est de ça qui est question. Là. Si je prends ça, puis je le sors de sa réalité quotidienne, puis je l'expose, déjà ça peut devenir une œuvre d'art. Une autre façon, si je le peins, je ne peux pas le peindre à la même échelle que ça. D'ailleurs, les cannes de bière de Jasper Johns sont réduites. Ils ne sont pas exactement de la même échelle que les vrais dans la réalité. C'est un indice que déjà, il y a quelque chose qui est important dans ça. Là. C'est signifiant, ça. Et qu'on ne peut pas garder ça à la même échelle. C'est rendre les choses insignifiantes. C'est ce que bien les gars ils ont tombé dans le panneau parce qu'ils ont vu des images, puis ils ont reproduit une image sans comprendre les idées que ces choses-là véhiculaient. Ce qui, moi, me semble important.
On reste à ça. Dans, parmi les étudiants qui étaient avec toi à ce moment-là, est-ce que tu as eu beaucoup d'échanges avec certains d'entre eux?
Oui, quelques-uns, oui.
Qui continuent à travailler dans ce domaine-là maintenant?
Tous ont abandonné.
Tous ont abandonné. C'était pas la même temps que Mongrain.
Oui, mais je l'ai pas connu, Mongrain.
Puis il n'y avait pas... Vous n'avez pas à ce moment-là formé de groupe ou...
Oui, à ce moment-là, j'avais un groupe. C'est d'ailleurs la dernière année que j'ai été à l'École des Beaux-Arts. Ça s'appelait le groupe, d'ailleurs. Puis c'est là que j'avais commencé à travailler avec le Jazz Lib du Québec. Puis on avait commencé à... On essayait de faire une tentative, sorte de recherche multimédia. On avait intégré les musiciens du Jazz Lib qui trouvaient ça drôle. On faisait des projections, on faisait du film. On avait des danseurs qui faisaient des mouvements dans la réalité, on avait des projections. J'ai été influencé un peu par ça aussi à ce moment-là. J'avais vu le Péloquin, puis le Moine, puis je trouvais ça amusant. Je trouvais qu'il y avait quelque chose là-dedans. On avait essayé une tentative. C'était un peu
un peu influencé aussi par les happenings. Enfin, c'est un peu cette époque-là. Alors, comme étudiant, déjà, j'essayais de faire autre chose en dehors de l'école, parce que l'école me semblait un milieu qui n'était pas amusant. Mm-hmm. Ça ne me tentait pas de changer même les structures de l'école.
Mm-hmm.
J'avais désespéré de ça.
Un milieu parallèle de grève.
Oui. Parce que la première année que je suis rentré à l'école, c'était la grève. Puis la dernière année, c'était une grève. La première grève qu'il y a eu, que j'ai connue, j'ai été actif. Mais après ça, pour moi, c'était le désespoir, tu sais, je ne croyais plus. Il y a le syndicaliste, les professeurs étaient installés là, puis j'étais convaincu que ces choses-là ne se bougeaient plus. Tu sais, que si on voulait faire autre chose, il fallait que tu ailles à l'extérieur. Que la place elle-même n'était pas transformante.
Tu penses-tu que c'est mieux depuis que c'est devenu l'Université du Québec?
Je ne sais pas.
Tu
n'as
pas enseigné?
J'ai enseigné, mais c'est ça. Je ne suis pas retourné. Je ne voulais pas retourner.
Mais qui faisait partie de ce groupe?
À l'époque, que j'ai perdu de vue. Il y avait un gars qui s'appelait Fletcher, je pense qu'il a fini comme il expliquait à l'héroïne, ce qui est disparu dans les corps aussi. Tu sais, il y a toutes sortes d'histoires, tu sais. Toutes sortes de raisons. Ben, la dernière fois que je l'ai vu, il en vendait parce qu'il expliquait. Tu sais, je veux dire, il était rentré dans le service où tu as besoin de bien de l'argent, puis en tout cas. Fait que je sais pas. La dernière fois que je l'ai vu, il était un. Moi, je ne voulais plus le revoir parce que je trouvais ça un peu tragique. Mm-hmm. Il y avait Cooper, il y avait Marc Dugas avec qui j'ai eu des contacts. Tu vois, ça, c'est un qui a continué. Mm-hmm. Aujourd'hui, il enseigne à Laval.
Puis
la
il a formé son atelier.
Oui, il a formé l'équivalent de ce qu'il y a ailleurs, à Québec.
L'atelier de
recherche
graphique. L'atelier de réalisation graphique. Puis, il y en avait qui faisaient, tu me dis, le fil, c'est vous-même qui faisiez le fil?
Oui, oui. Mais c'était du 8 mm, tu sais, je disais, c'était pas plus sophistiqué que ça.
Mais en fait, le contenu des films, c'était quoi, généralement?
Le contenu, c'était vaguement pop art, c'est bon.
Mm-hmm. Et puis, dans quel cadre c'était présenté pour votre petit groupe?
On avait présenté ça à l'intérieur d'un cours avec Simon à l'École des Beaux-Arts. Mm-hmm. Puis après ça, on est... Ça fonctionnait assez bien. Le groupe se tenait assez bien. On est allé au Berry, qui était une boîte de jazz à ce moment-là. Puis le Jazz Lib avait un engagement là. Puis on a fait deux spectacles. Le deuxième spectacle, la police l'a arrêté. Les danseurs, avoir un permis de spectacle, un permis de le cinéma, un permis... C'est tellement compliqué. Puis de toute façon, les policiers, quand ils sont venus, ils ont vu ça, ils ont dit que c'est un genre de chose qui va rendre le monde fou, ça va être stressé. Ça fait que, ils avaient même posé un jugement là-dessus,
ouais.
De valeur. Fait que le propriétaire avait déjà des difficultés, c'est une boîte de jazz, pour avoir ses permis, ces choses comme ça. Il y avait déjà des difficultés avec la police, fait que ils voulaient plus qu'on fasse le spectacle. Ça a fini là, le groupe s'est dissous aussi après ça.
Donc, vous avez deux représentations publiques au Berry.
C'est ça.
Puis, mais le groupe s'est dispersé, vous avez complètement cessé de vous voir. Puis là, chacun est parti de son bord.
Quelques-uns ont continué à se voir, mais il y a eu des dissensions, comme tous les groupes. Tu sais, finalement, il y avait peut-être un ou deux avec lesquels tu étais d'accord, puis les autres, en fait, étaient moins d'accord. Mm-hmm. Pas oublier qu'on était des étudiants, puis qu'on se posait tous des questions, puis à un moment donné, tout le monde s'orientait, se trouvait. On cherchait à l'intérieur du groupe aussi, tu sais.
Fait que toi, tu es parti en bar, puis là, tu as obtenu le contrat de la commission scolaire. Tu continues à produire parallèlement à ça?
Mais j'avais déjà commencé à me manifester publiquement. Même comme étudiant, au concours artistique, j'avais eu une pièce exposée cette année-là.
Ouais. Une peinture.
Une sculpture.
Une sculpture. À partir de quel moment tu as commencé à faire une sculpture?
La dernière année où j'étais à l'école.
Puis là, est-ce que tu as eu vraiment une... prédominante vers la sculpture.
Oui. Après ça, je me suis engagée en sculpture.
Tu n'as pas fait partie de ces gens parce que tu me parles de sculpture de plexi. 69, ça me fait penser à l'époque où tout le monde courait chez Equi Plastique chercher des retailles. On venait de découvrir le plexi. Fait que je veux dire, toi aussi, là, tu faisais partie de le choix du matériau, te viens-tu de ça? Le plexi en
Non, ça n'a pas été une crise du matériau, que c'était quelque chose qui s'est imposé de lui-même. Mais je ne trouvais pas que le plexi était plus drôle que le bronze, par exemple. Mm-hmm. C'est parce que c'était lumineux, à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à la lumière.
Puis ça, est-ce que quelque chose de précis qui a fait que tu as commencé à t'intéresser à la lumière? Je veux dire, comment l'évolution s'est faite?
Ça découlait de la peinture. Je veux dire, des toiles expressionnistes, après ça, j'ai commencé à des choses un petit peu plus formelles. J'ai commencé à faire des tableaux en relief. Là, il y a un passage. J'ai encore deux ou trois tableaux comme ça à la maison. Des choses assez en relief. Je ne sais pas si tu te souviens de Beaugardi, ce qu'il faisait quand il était étudiant.
Ses toiles avec
Rose,
les trucs en
dessous, là. Oui, c'est ça. Bon, ben, ça, c'est un gars avec qui j'ai eu des contacts à l'école. C'est vrai, j'avais oublié, mais Georges, c'est le gars amusant que j'ai découvert à l'école des Beaux-Arts. On avait tous les deux commencé à travailler cette technique-là sans le savoir. Puis on s'est découvert à travers une exposition d'étudiants à l'école. On a vu, il y avait des tableaux, puis on travaillait avec la même technique, on a commencé à jaser. On a développé cette technique-là, c'est-à-dire de mettre des objets en dessous de la toile, puis de bander les toiles mouillées là-dessus. Sauf que ce qui est arrivé très, très vite, Marie Langlois a pris la technique, puis a commencé à produire. D'ailleurs, elle en fait encore, Marie Langlois. Puis Bruni a commencé à l'enseigner en peinture, parce que lui, il cherchait un contenu de cours. Ça se pouvait plus, parce qu'il n'y en avait pas. Fait qu'il s'était découvert une technique, montrer aux étudiants comment monter les toiles. Puis en plus de ça, tu pouvais mettre des objets. Fait que là, moi, j'ai abandonné tout de suite. Georges a eu le temps de faire une exposition avec ça avant que ça devienne trop... Mais tout le monde s'est fait ça. Mais de ces choses-là, qui étaient pour moi des reliefs lumineux, là, je passais à la sculpture en plus. Ce qui me semblait être plus efficace que de travailler des reliefs qui étaient des problèmes de sculpture mais transposés en peinture.
Puis là, tu as travaillé de façon assez géométrique.
Oui.
Des assemblages.
Ouais. À partir de ce moment-là, pour moi, c'est. De toute façon, quand je dis que je n'étais pas d'accord avec Bryson, c'est l'anthropomorphologie, je suis contre. Mm-hmm. Puis c'était clair, quand j'étais étudiant, j'ai dit que je ne voulais rien savoir de ça. Mm-hmm. Et puis, ça continue.
As-tu travaillé à partir de maquettes, un petit peu
de sculpture, ou... Même que j'ai été obligé de les faire arrêter, parce que j'ai développé une allergie au plexiglas à ce moment-là.
Ah. Et puis,
fait que je ne pouvais plus les faire.
T'as pas aidé pourquoi l'allergie? Il y a d'autres qui m'ont parlé de ça.
Parce que
c'est
les fines poussières? Aussitôt que je sablais du plexiglas, je devenais couvert de rougeur. Fait que la troisième sculpture, j'étais couvert de rougeur, absolument, puis là, je voulais en faire d'autres. Fait que finalement, je travaillais des petites maquettes en acétate. Mm-hmm. J'amenais ça chez Eki, je faisais des plans très précis, puis ils s'exécutaient.
Parce que, attends, j'ai vu que t'en avais en plexi transparent, puis t'as aussi des moments d'infiltration
populaire.
Ils sont tous transparents.
Tout transparent. La lumière était blanche, ça n'a jamais été coloré. Déjà là, ça présente l'idée de ne pas introduire, de pas de rouge, pas de, tu sais.
Tu as travaillé
les triangles? Oui, j'en ai fait une au néon.
Le triangle?
Oui, oui.
Mais ça, c'est passager?
Oui, c'est une affaire que j'ai faite comme ça. Je pense que ça n'a pas plus d'importance que ça.
Tu as travaillé aucun autre matériau en sculpture que plexi, puis là, tu es passé de ça...
Au laser.
Au laser.
Ouais.
Qui restait avec une conception sculpturale.
Oui.
Dans la mesure où tu construisais des lignes dans l'espace.
C'est ça. Oui. Basé beaucoup sur une sorte de formalisme géométrique.
Mais est-ce que tu as eu toujours. Dans tes lectures, as-tu eu souvent des curiosités scientifiques, là, pour en arriver comme.
Pas
la
vraiment.
Technique du laser.
Pas vraiment. Moi, ça n'a jamais été important. Ça. La technologie, pour moi, ce n'était pas important en soi.
Puis, tes feux de
lumière,
qu'est-ce que vous voulez?
En lame d'acier.
Ça a précédé le laser aussi?
Ça a été en même temps. Parce que, à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec le laser, là, depuis le plexiglas, de toute façon, j'étais intéressé à des systèmes énergétiques. Et. comme le laser était mal perçu, il était toujours perçu comme quelque chose de scientifique et technologique. On ramenait toujours le débat là-dessus. J'ai abordé quelque chose qui était simple, de faire brûler la laine d'assise. Fait qu'il n'y avait rien de moins sophistiqué que ça. Fait que j'essayais, quand je faisais une exposition au laser, je faisais toujours des choses avec le feu, la laine d'acier. J'essayais de désamorcer ce que l'autre amorçait comme affaire. Tu sais. Finalement, j'ai tout abandonné ça.
Peut-être que tu as fait des esprits. En fait, tu as pas un petit peu aussi la mentalité de la famille à ce moment-là. Tu sais, quand tu parles des événements dans la neige, etc., là, les gens qui passent à travers le feu,
ouais.
Tu suis pas encore un peu ce,
ouais.
Étiquette-là. Tes membres de la galerie Sauvegarde, comment tu arrives?
C'est-à-dire que je suis le comité de sélection?
Sur le comité, bon,
ouais. Parce qu'ils m'ont demandé de faire partie du comité. J'ai exposé là, puis, je sais pas.
Comment t'as regardé la sauvegarde?
Parce que c'est eux qui m'ont donné ma première exposition. En fait, c'était pas tellement la sauvegarde, c'est pour ça que enfin, je suis sur le comité de sélection. Et ce qui est important, c'est qui est sur le comité de sélection. Puis à ce moment-là, il y avait Barras. C'est Barras qui m'a donné mon premier break. Mm-hmm. Puis j'ai fait une exposition à la sauvegarde parce qu'il y avait Barras.
Quand tu faisais des happenings ou des environnements, l'important pour toi, c'est de faire participer les gens, que plusieurs intuitions viennent en même temps aux gens par toutes sortes de sources énergétiques en général.
Pas vraiment.
La
participation, je crois pas. Je crois pas que la participation, je trouve que c'est ça, c'est un c'est quelque chose qui a été dans le milieu, qui a influencé, semble-t-il, bien les gens et avec lequel je ne suis pas d'accord. La participation, pour moi, c'est...
Non. Je trouve que j'avais vu à Sauvegarde.
Non.
Mais qu'est-ce que c'est?
Pourtant, c'était un peu ça qui se passait, puisque les gens allumaient eux-mêmes, les toiles étaient au milieu environnemental, quasiment agressés par les laser. Je me souviens que les gens disaient « Fais attention que ça ne t'arrive pas dans l'œil, parce que c'est complètement...
Ouais. » Mais j'ai jamais valorisé ça plus qu'une chose, parce que la participation, tu peux participer, puis tu peux être au cinéma en train de regarder un film.
Est-ce que c'est
tu participes? Bien sûr. Il y a différents niveaux de participation. Quand Kozik te dit qu'il fait des choses à participation, c'est un plein de marde, c'est un prétentieux, parce que il n'y a rien de plus vieux de toute façon qu'en sculpture que de tâter une forme. Je veux dire, quand même. Puis les tâter en plus, personnellement, ça ne m'amuse pas. C'est cheap. T'sais? Puis la ça, c'est un niveau de participation. Tâter, ça ne veut pas dire que tu participes plus. Moi, je lis un livre, puis je participe. Je rentre dans la peau du personnage. Je suis en train de vivre quelque chose de particulier. J'ai une participation très intense. La participation, moi, je veux bien qu'on en parle, mais qu'on place ça comme faux. Et ça, c'est un des faux problèmes de notre milieu, la participation. C'est ça que, pour moi, le drôle de Kozik qui va parler de ces choses, ou enfin on les parle, je ne l'ai jamais entendu défendre ça comme ça, mais on parle de ces choses en termes de participation. Et vraiment, ça ne justifie pas intellectuellement, ça ne se défend pas intellectuellement. Il n'y a pas un auteur de livre qui ne dirait pas qu'il veut te faire participer. J'ai participé à beaucoup de films, puis j'étais assis là avec mon sac de popcorn.
Mais c'est plus une réception.
Ah, il y a une participation intellectuelle. Je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Pour moi, ce n'est pas physique, la participation. C'est amener ça à une chose, qu'à une chose, en tout cas. Pour moi, la participation, c'est plus que ça. Je pense que mes choses sont d'autant de participation parce que c'est une participation intellectuelle, puis c'est des présences physiques. Si tu fais un lien entre ton corps et entre ce qui est là, il y a une question d'échelle dans ces choses-là qui est importante. Et dans ce sens-là, c'est aussi, tu peux aussi participer.
Moi, c'est une autre chose, quand tu avais présenté le projet à pour ton exposition, il était question de la mer à ce moment-là.
Oui.
Puis qu'on
a... Je t'ai levé avec autre chose.
Ouais. Fait que là, tu avais carrément décidé de faire l'abandon, en tout cas, pour le moment, je ne sais pas si tu comptes les années, de ces expériences-là pour
ouais.
Ce que tu connais. Tu te sens plus heureux dans ce que tu
C'est la première fois que je commence à faire quelque chose de plus sérieux.
Pourquoi?
Oui.
Parce que même
ça m'a pris 10 ans pour arriver à quelque chose, à quelque chose de fort.
Ça veut dire...
Si sais, je dis pas que les choses que je faisais avant, c'était pas bon, tu sais.
C'était
mais je veux dire, c'est, j'étais encore dans un certain apprentissage, tu sais. Les gens ont des... je pense que ça leur prend plus ou moins de temps. Ça dépend des individus. Moi, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris 10 ans.
Puis est-ce que tu ne sentais pas le médium plus fort que toi? Plus lourd de signification que ce que tu voulais dire?
De quoi tu parles?
Comme les lasers.
Les lasers?
Les feux, la fumée.
Ça, tu trouvais que ça avait plus de...
Que c'était plus lourd de signification que celle que tu voulais lui donner.
Que le médium, finalement, te prenait plus...
Que ça véhiculait des choses que moi, je ne voulais pas véhiculer. Les gens, de toute façon, quand ils venaient voir l'expérience que je faisais avec ça, avaient plus d'intérêt pour les machines elles-mêmes que pour ce qui se passait vraiment. Et je me suis dit que j'étais probablement à côté de la traque, parce que j'essayais de faire quelque chose, puis les gens s'attardaient à autre chose complètement. T'sais. Alors, je me suis surpris d'un autre moyen.
Je me suis dit, de sa part à lui, c'est de s'amuser avec un instrument, c'est qu'il y a déjà toute une autre connotation. Dans le fond, je trouvais qu'il y a un peu de créativité. Sauf le de l'envoyer dans les miroirs, évidemment, pour qu'il y ait des réseaux dans l'espace. Je trouvais que c'était pas mal. C'était beau.
Moi, je pensais que tu m'expliques plus ton truc d'énergie. Ce que tu dis, je jouais avec l'énergie. La puissance du laveur, c'est quoi exactement? Comme le feu, la notion d'énergie. Tu sais qu'il y a une notion,
Je pense que probablement ce qui m'intéressait, c'est que ça projetait l'image de l'énergie. C'est-à-dire que ça, c'est de l'énergie, tu sais, c'est un paquet d'atomes assemblés ensemble. On n'est pas conscient de comment c'est en train de bouger en ce moment, tu sais, c'est en expansion, mais on ne le voit pas, tu sais, on n'assiste pas à ça. Tandis qu'avec la lumière, on avait la possibilité, en tout cas, d'assister à ce phénomène-là. On le voyait, il devenait perceptible. Ça m'amusait. Mais c'était l'image, peut-être. T'sais. Ça, dans ce sens-là, je suis plus heureux avec les choses maintenant, parce que je trouve ça beaucoup plus rigoureux. T'sais. Et j'ai laissé tomber l'image des choses, l'illusion. Ça a été très, très long. Ça a été très long et très difficile.
T'as peut-être fumé, là. Ça me paraît comme un gars, comme un cheveu sur la soupe, une violette d'un jeu de pied. C'était tout ça, ou c'était simplement le contrepoint du laser, ou y avait-il autre chose?
Ben, pour moi, ça avait un sens, parce que ce qui m'intéressait dans la laine d'acier, c'est qu'on pouvait... C'était
la machine à faire la fumée.
La machine à faire la fumée. Ben ça, c'était le handicap du laser. C'est-à-dire que si t'as pas de fumée, tu vois pas le laser. Fait qu'il me fallait tout le temps une source de fumée quelconque pour révéler les rayons. Fait que même dans les expositions à l'intérieur que j'ai faites, j'ai toujours eu de l'encens, j'ai toujours eu quelque chose pour révéler le... Et d'ailleurs, si j'ai employé l'encens, c'est que c'était une façon, on pouvait l'identifier, qu'il y avait de la fumée. Dans ce sens-là, je trouvais ça malhonnête de mettre de la fumée dans l'air, pas se faisant noir, personne ne s'en aperçoive qu'il y avait de la fumée. Fait que je l'identifiais en tant que fumée, pour que ce soit clair qu'il y a un rapport entre ce qui est révélé et ce qu'il révèle, tu sais. Ça, au moins, ça soit honnête. Mais j'étais encore en train de faire des illusions avec mes miroirs, tu sais. J'étais encore dans des rapports que je trouvais moins honnêtes, tu sais. Je cherchais quelque chose de plus présent physiquement. Le laser était intéressant dans ce sens-là, parce que tu pouvais, avec ton corps, avoir un rapport avec ça, parce que tu le traversais, le rayon lumineux, pour avoir un rapport physique intéressant.
Tu
pouvais transformer, c'est ça, tu pouvais transformer la structure. Il y avait un rapport que tu faisais entre ton corps et entre ce qui était là. Et ça, je tiendrais à conserver ça. C'est-à-dire que pour moi, je pense que l'échelle, c'est important. Quand tu travailles dans une préoccupation, les choses ont une présence physique. C'est la physicalité des choses qui t'intéresse. Et puis, c'est pas facile à trouver, mais... C'est ça qui est le point sensible dans ça. C'est pour ça que j'étais moins satisfait dans les pièces à véhicule quand ils arrivaient. Tout était là, tu sais, j'ai commencé à faire une réflexion sur l'échelle de mes pièces. Je pensais qu'il y avait quelque chose à travailler encore. Je t'en parle là-dessus, là, tu sais.
Alors, avec l'espace même de véhicule, peut-être.
En soi, les pièces étaient bien réparties, je pense, dans l'espace. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Mais c'est l'échelle de chaque pièce. Et je me suis posé la question, si peut-être qu'il n'y aurait pu y avoir qu'une pièce à véhicule, tu sais. Si j'avais tout trouvé, tu sais, si j'avais toutes les réponses, j'imagine que je ne ferais plus rien à l'atelier. C'est pour ça que quand j'aurai toutes les réponses de la dialectique, là, que change l'affaire, ou j'arrête complètement, tu sais. Et peut-être qu'il est honnête d'arrêter, peut-être que beaucoup d'artistes devraient arrêter. Marcel Duchamp a dit qu'il ne fallait pas s'attendre à ce qu'un artiste ait une bonne idée à tous les 10 ans, tu sais. On ne peut pas s'attendre à ça. Puis c'est pour ça qu'il a arrêté, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, il avait tout défini, cette dialectique. Il était tout ce qui restait à faire, c'est de continuer à exécuter ces mêmes, ouais. Les mêmes objets. Fait que, tu joues aux échecs. Dans le fond, je trouvais ça honnête. Je trouve ça très honnête.
Comme ça, pour toi, l'exposé, c'est le besoin de prendre le recul face à tes œuvres. Le besoin de confrontation avec le public.
C'est une bonne façon de commencer à réfléchir dessus. Parce que tu deviens très détaché par rapport à ça. Par le simple fait que c'est dans un autre lieu physique, ce qui t'est familier. Et puis, c'est le fun aussi que... Enfin, je pense que c'est important d'exposer. C'est pour ça que, enfin, c'est tragique s'il se fait des choses à Montréal et qu'elles ne sont pas exposées. Parce que les gens du milieu sont influencés par ce que les autres font. Moi, je suis influencé par des gars ici dans le milieu. Puis il y a des gens qui sont influencés par moi. Je pense qu'on stimule tous, finalement. C'est pour ça l'intérêt de véhicule.
Ouais.
C'est un petit peu ça, finalement. Et je vais chez Alan Bailey, mais il fait des affaires, mais... Oups, c'est ça. Fait que je reviens craquer ici et il se passe des patentes.
Fait que c'est quoi, en ce moment, ton
nouveau
rapport avec le milieu?
Le milieu n'existe pas.
Dans ce cas-là, hein?
Fait ici, avec un petit groupe, avec les gens de véhicule, quelques gens de véhicule, mais c'est pas avec tous les gens quand même, tu peux avoir des rapports intéressants. Mais comme avec Andy ou encore Alan Bailey, tu vois, j'ai des rapports qui sont assez.
Puis, comme ça, le milieu
n'existe pas, mais d'après toi, pour quelle raison? Ou y aurait-il
un milieu anglophone, mais pas
le milieu? C'est quoi le milieu? Ce qui est clair, c'est que le milieu anglophone est plus intéressant que le milieu francophone. Les raisons exactes, je ne sais pas.
Puis,
mais j'ai parlé de pauvreté intellectuelle. Je pense qu'au niveau de l'enseignement, il y a une pauvreté. C'est juste du Vieux-Montréal, c'était pauvre en cours. Puis à l'Université du Québec aussi, c'est pauvre. Fait qu'est-ce que ça donne à l'autre bout? Ça donne peut-être la pauvreté, qu'on continue comme ça. Il y a peut-être un gars qui a eu beaucoup trop d'influence dans notre milieu, puis ça a peut-être... on a peut-être passé tout à côté de la traque. L'influence de Dumouchel a été bien, bien grande, puis pour moi, c'est un désastre épouvantable.
Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas assez questionné, c'est ça?
Ben, Dumouchel n'était pas une force. Plus, plastiquement, il n'y a pas
de force. J'ai essayé de faire une
chose, mais cool.
il n'y avait rien
à montrer là-dedans. C'était quoi la force de Dumouchel? C'est que c'est le premier qui a indiqué qu'on pouvait faire une recherche plastique avec la gravure. Puis il a donné des outils aux gens. Mais techniquement, là, je veux dire, c'est bien, il a eu cette influence-là. Mais les gars ont commencé à copier une image, tu sais. Puis il n'y avait rien à prendre là, c'était plate l'affaire. Fait que toute une génération de gars, puis la génération un peu avant moi, là, s'est engagée à fond là-dedans, tu sais. Puis aujourd'hui, ils se retrouvent avec ça. Une pauvreté intellectuelle, refus de discuter les images, tu sais. Représentation vraiment de l'imagerie que j'appelle, tu sais. On projette l'image du Québec, mais c'est de l'imagerie, ça. C'est pas parce que tu projettes une canne de bière que t'es en train de projeter l'image du Québec. C'est autre chose que ça, l'image du Québec. Ben, je pense. J'espère que ça ne tient pas qu'à un type d'imagerie.
C'est quoi le problème de l'avoir hors de société ou hors de politique?
Difficile à dire. Je trouve ça très difficile à définir.
C'est ça.
Oui, tu sais, comme moi, mon rapport, enfin, je songe toujours que enfin, c'est moi par rapport à la société. Puis je sais, en tant que professeur, j'en ai un, tu sais. En tant qu'artiste, je ne sais pas, tu sais, mais j'ai pas l'impression que notre société est très, très intéressée à ce qu'on fait, notre production. Tu sais. Pour moi, L'exemple de ça, c'est l'exemple de Portua, qui est un peintre très important. Et je ne comprends pas qu'on n'a pas un musée Portua, par exemple. Je suis convaincu que dans n'importe quel autre milieu, un peintre de cette importance-là aurait déjà eu, il y aurait déjà assez d'informations, puis on aurait au moins culturellement sauvé ces choses-là.
Mais c'est ambigu ce que tu dis, parce que en première partie, j'ai cru comprendre que tu te demandes quels sont les liens qui peuvent s'établir ou s'il peut y avoir une inter-influence exacte entre, ou efficace entre art et politique. Et tu sais justement l'exemple de Bordeaux, qui est peut-être le seul de fait, qui a eu une influence, qui partant de la sphère culturelle, a su avoir une influence à l'intérieur du domaine idéologique sur la structure politique.
Sur certains individus.
Oui, oui.
Je pense que c'est.
Tu parlais de l'image du Québec, hein? Je réarticule ça face à ce que tu parlais maintenant en disant justement, c'est pas en mettant la bouteille de bière qu'on présente une image du Québec, c'est plus que ça. Je te dis ça va. Par contre, tu as mentionné à quel point aussi tu peux faire des choses qui sont relativement formalistes. Et je te demande, à l'intérieur de tout ça, là, ton rapport avec le. La sphère politique, au-delà des étiquettes, le simple rapport d'étiquette, au-delà d'une vie quotidienne, une problématique culturelle quotidienne. Tu sais. Comment le fais-tu? Il n'y a pas une évacuation, tout ça,
à travers. Moi, je ne fais pas de rapport. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de faire de rapport en politique. Pour moi, il s'agit de choses différentes. Tu sais, je veux dire, si on voulait parler, je ne sais pas, moi, de. Est-ce que l'art est révolutionnaire? Tu sais, si on essaie de trouver un point commun, par exemple,
ouais.
Est-ce que l'art est révolutionnaire?
Ouais.
Bon. Mais, tu sais, je pourrais dire que l'art est révolutionnaire, mais je ne peux pas te faire de lien avec la politique, parce que l'art me semble engagé, en tout cas au niveau des idées, plus dans une sorte de transformation des attitudes mentales, si on veut, tu sais. La politique s'occupe d'autre chose. Et je ne suis pas capable de faire de rapport à ces choses-là. Ce qui serait l'homme idéal, là, ce serait que des gens qui s'intéressent à la politique, qui sont politiquement engagés, puissent changer aussi leur attitude mentale à d'autres niveaux et dans d'autres domaines. Mais ils ne sont pas capables de le faire. C'est pour ça que je réenchaîne avec mon musée Bordua. Tu sais, je veux dire, je pense que collectivement, là, on n'en est même pas encore collectivement à Portua. Tu vois?
Oui.
Nos politiciens n'ont pas encore changé leur attitude mentale. Alors, si pour moi, le peintre ou l'artiste là, est engagé dans ça, là, c'est-à-dire transformer les attitudes mentales, tu sais, façon de voir, de sentir les choses, de voir le monde, de comprendre, je ne sais pas, tu sais, au niveau des idées, les gens dans d'autres sphères d'activité, comme les politiciens, j'y prends eux, j'y vise particulièrement, parce que c'est des gens qui, effectivement, n'ont pas changé d'attitude mentale. J'ai rencontré des scientifiques bien plus amusants que des politiciens qui avaient une capacité de s'émerveiller, qui avaient une capacité de pouvoir d'être choqués par des idées, même qu'on leur dise que leur conception du monde est toute erronée, puis qu'ils avaient au moins cette ouverture d'esprit, puis qu'ils sont en recherche eux-mêmes, tu sais.
J'ai l'impression, par contre, que tu le ferais de rapport entre art et science, ne serait-ce que parce que tu as utilisé à un moment donné certains équipements,
ouais.
Un certain software scientifique.
J'ai souvent
d'accord.
Pensé que.
Alors que j'ai l'impression que tu n'es pas capable d'articuler ou que tu refuses ou tu considères qu'il n'y a pas d'articulation faisable entre art et politique. Et cependant, comme je dis, ce que je comprends pas, j'essaie de te replacer l'affaire, c'est que tu cites Bordua, lequel est justement l'exemple de celui qui a su, à un moment donné, faire cette articulation à travers le manifeste du refus global.
Ouais.
C'était pas une peinture, d'accord. C'était un texte écrit, c'était polémique. Il a su le faire, il a su être efficace.
Oui, mais ce qu'il proposait politiquement, c'était quoi? C'est une sorte d'anarchie.
Oui.
Hein? Je dis, c'est ça.
Oui, c'était
une question. Hein? Dans le refus de la
base,
ni à gauche, ni à droite,
non,
on
ne
sera pas victime de n'importe quel système. Tu sais, je dis, c'est
la
liberté.
C'est
et je m'en tiendrai au moins, même point que Bordua. Tu sais, je pense. Et je te dis, quand je te dis que je ne suis pas capable de faire le rapport avec la politique, c'est que la politique actuelle, moi, je ne comprends rien dans ça. C'est absolument rien de ce qui se passe. Je trouve pas qu'on est en train de jouer avec des problèmes intéressants. Puis qu'on
je vais te poser peut-être une question plate, juste pour finir ce sujet-là, mettons. Tu Tu mentionnais tout à l'heure, disons, on a parlé du milieu culturel. Tu as dit carrément, mais bien sûr, le milieu anglophone est plus intéressant. Tu ne disposes pas un peu, tu veux passer un peu d'année.
Que le milieu anglophone,
tu vois. Oui, je veux dire, moi, j'avais mis des remarques, je n'ai rien contre non plus. Mais c'est quand même, je ne trouve pas ça chiant un peu quand même, sur ce côté francophone, pour que je dise, on a de la chance.
Je ne suis pas très nationaliste. Ça me dérange dans la mesure que j'aimerais mieux avoir des échanges avec les individus dans ma propre langue, tu sais.
Ou en plus de ça, si tu veux, c'est vraiment quand on te posait la question tout à l'heure, tu faisais partie d'un ensemble de personnes affamiliales, puis quand on te demande ce qui se fait, c'est carrément, il faut que tu le cannes. Pas plus grave.
Je connais pas les causes, je connais pas les raisons. Il demeure un fait que si tu cherches des gars qui intellectuellement sont solides dans le milieu, qui sont intéressants, qui brassent des choses intéressantes, tu as de la difficulté à trouver chez les francophones. Et je le comprends. Ou on a été complètement débordé, puis on a été perdu dans la brume, ou on a raison, tu sais, puis c'est la balance du monde qui ne comprend pas, je ne sais pas, là, tu sais. Je ne comprends pas par quel phénomène
on est.
Dans quel sens tu...
Je ne sais pas, je te pose la question. J'ai l'impression que...
J'ai fait un choix il y a très longtemps, et puis je me suis retrouvé tout de suite un marginal. Je n'étais pas capable de faire partie du groupe d'ailleurs, qui emballait tous les étudiants quand j'étais à l'École des Beaux-Arts. Tout le monde voulait aller à l'atelier de Pierre. Enfin, il y avait une certaine...
Oh, oui, bon.
Il y en a toute une d'autres qui étaient intéressés par le parce que la Croix faisait, qui avait un accent scientifique, bon, tu sais, hors société, peut-être rapport, tu sais, bon. Je cliquais pas là-dedans, tu sais, ça marchait pas. Pour moi, intellectuellement, je n'étais pas capable. Fait que je me suis retrouvé plusieurs années après, vraiment très seul, très isolé à Montréal. Parce que je sais pas, tu sais, des raisons X, là. C'est seulement quand j'ai retourné à l'Université Laval, j'ai commencé à enseigner là, que là, j'ai re-rencontré des gens de Montréal, puis que tout à coup, là, j'ai pu échanger avec des gars comme Mongrain, par exemple.
Pensez-vous qu'il y a un espoir de ce côté-là? Pensez-vous que le milieu francophone peut se reprendre en main, comme avec des gens avec qui parlent beaucoup avec Jean-Serge? Pensez-vous qu'il y a un nouveau courant?
J'en douterais. Je pense que les idées, peut-être que, je ne sais pas, j'aimais ça comme idée, peut-être que toutes les idées viennent de l'extérieur.
Plus précisément des États-Unis.
D'Allemagne. Comme là, je reviens des États-Unis, je trouve ça, c'est bien, bien plat. Il n'y a rien qui arrive.
À
New York. Je suis allé voir l'exposition, le Whitney Annual, qui est l'exposition de tous les jeunes qui ne sont pas connus aux États-Unis. Mais c'est plat, ça se peut pas. Tout le monde est en train de faire du EVOS. Fait que c'est la dernière crise, là, tu sais, je veux dire, on va en voir en masse, puis là, je figure que dans 2-3 ans ici, ça va être la tonne aussi, tu sais. Et là, New York, c'est tellement plat qu'ils sont en train d'exposer des Allemands, puis ils exposent des Italiens. Fait que je pense que même c'est le temps que les Québécois se grouillent ou que les Canadiens se grouillent, tu sais, puis c'est le temps d'aller à New York. Parce que là, au lieu d'être centrés sur eux-mêmes parce qu'ils sont très forts, ils vont peut-être être capables de s'ouvrir un petit peu à des choses d'ailleurs. Peut-être que le milieu deviendrait fort en autant qu'on ne soit pas si isolé. Mais on souffre l'isolement.
Mais les Allemands...
Je sais que je connais plusieurs personnes qui essayent d'entrer à New York. Puis vraiment très difficile. C'est plus facile si ça arrive d'Europe que si ça arrive du Québec. Je pense que les Allemands, c'est pas seulement dû aux gens d'ici. Ouais. Il y a une certaine forme de racisme qui est exercé à notre endroit.
Parce que dans le fond, d'être Québécois ou d'être Canadien, c'est pas exotique par rapport aux Américains. On est collé dessus, puis on est un peu Américain dans ce sens-là. Ils sont peut-être plus ouverts à l'Italie ou à d'autres choses.
Selon le Mexique,
Le Mexique, oui.
Ça fait
exotique.
Ça doit faire...
Mais cette attitude d'isolement-là, toi, personnellement, tu vois pas une façon de la briser? Comme toi, en faisant le contact avec d'autres
Quand je regarde ce qu'on a ici, ce qui se passe, la vie des arts n'est pas une revue d'idées. Je trouve ça important qu'on ait des revues qui fassent le pont avec ce qui pas d'idée dans le milieu. Il n'y a pas de confrontation. Il n'y a pas de débat au niveau des idées, en tout cas, ici.
Puis,
enfin, j'en connais pas.
Le travail collectif, ça n'a pas question.
De travailler avec d'autres.
De travailler avec d'autres et de travailler en collectif. Sans que ça soit la pièce de plein, mais la pièce de 4-5 personnes. Toi, est-ce que tu t'y engages?
Ben, je sais pas, j'ai passé un petit peu à travers ça quand on avait un groupe qui faisait des trucs là, tu
sais. C'est pas une chose.
C'est pas une chose qui m'intéresserait, tu sais, que. Non.
Parce que tu penses pas aussi que ça créerait une nouvelle relation à l'intérieur du milieu? Que ça créerait peut-être une relation plus intense entre art et société, par exemple?
Peut-être, je veux dire, c'est peut-être quelque chose sur lequel je devrais réfléchir. Dans c'est possible,
France,
parce
ça
que.
Serait...
Je sais qu'en Europe, il y a toujours eu des groupes, le groupe de recherche visuelle, hein, tu sais, bon, le groupe de la Croix ici, et enfin, il y avait quand même des gens autour de ça. Mais qu'est-ce qui arrive toujours aux groupes? Ça fait un temps, les groupes.
Mais est-ce que les groupes ne tenaient pas, par exemple, le temps d'exister?
Peut-être. Je pensais, enfin, c'était un petit peu pour ça que, encore une fois, j'étais à véhicule, parce qu'un peu dans ce sens que, pour moi, véhicule semblait stimuler certaines choses. On introduisait des idées dans le milieu. C'est intéressant s'il y a des gens qui réagissent à ça, et si, justement, ça part quelque chose. C'est ça qui serait intéressant de votre exposition. Si votre exposition, après ça, là, pendant 2 ans, ça discute dans le milieu, il est arrivé quelque chose. C'est ça qu'il faut faire. Il faut stimuler le milieu, il faut lui donner des piqûres parce que de lui-même, là, il est très anémique en ce moment. Et c'est l'absence de tout. Mais même à ce véhicule, il n'a pas de moyens finalement. S'il n'y a pas une revue, s'il n'y a pas. Il faut que tout le monde fonctionne à différents niveaux pour réintroduire une vie dans ça, que ça redevienne intéressant. Le milieu a été très fort ici. Avec les automatismes, puis après, c'est il y a les plasticiens, là, ça c'est l'absence. C'est vraiment, depuis les plasticiens, je ne vois pas ce qui s'est passé ici de vraiment, vraiment important intellectuellement, là, qui a suscité vraiment des gros, gros débats, des grosses haines, tu sais, à mort, là, des gens qui sont taillis pour la vie. Tu sais, des débats de fond, là, de questions d'idéologie, de jamais, tu sais. Justement, de toute façon, le type de choses que je veux faire ne passe pas dans les gazettes. Mais c'est pas commercial, tu sais, d'aucune façon. Là,
tu ne vois pas du tout dans les
sorties. Ils veulent même rien savoir, tu sais, de mon type.
De toute façon, si tu prends des heures au plancher, tu ne changeras jamais, c'est évident.
Ça, je t'ai dit, tu sais. Il y a peut-être Martha Landsman là, qui s'intéresse un petit peu, tu sais, mais je sais pas ce que... Je pense que c'est très limité ce que je pourrais faire. Et peut-être que dans le contexte new-yorkais, ce serait vraiment très insignifiant, tu sais, peut-être que ce serait facile à passer, puis il y aurait une galerie qui
pourrait mettre ça. Mais t'as pas qui travaille un peu dans ton...
Ce que j'ai surtout vu, c'est des choses qui étaient. Enfin, c'était quand même des formes que je faisais. Peut-être que tu parles de Carl Lambert.
Est-ce que tu verrais plus d'artistes, moins de pièces, moins d'artistes à plus de pièces? Un exemple, mettons.
Ben, ça dépend de oui, des, que des, physiquement, mais c'est intéressant de voir deux ou trois pièces d'un artiste, par exemple. Ça dépend des dimensions de leurs choses, mais ou plus que ça, même, que de voir beaucoup d'artistes avec peu de choses. Les expositions exhaustives sont toujours plates. Il n'y a jamais rien qui arrive. Il y en a une au musée en ce moment qui se veut être une exposition exhaustive de la peinture canadienne. Il n'y a rien à tirer de ça. Il n'y a pas assez d'œuvres de chaque individu. Il y a des choses qui deviennent claires, qui deviennent évidentes, parce qu'il y a une quantité d'œuvres d'un même individu. Là, ça, il y a des choses qui deviennent très fortes. Ça devient un statement fort.
Vers
Ouais. Jusqu'à ce qu'il fait dernière. Je vais mettre trois de tes dernières affaires ou bien mettre par exemple une affaire
Personnellement, j'aimerais faire un statement fort. Tu sais. Et je mettrais des choses qui sont récentes, par exemple.
Puis tu oublierais
qui seraient de la même époque. Oui.
Pour toi, c'est plus important.
Oui.
Puis,
si on t'appelait dans trois semaines et un mois, tu demandais est-ce que tu as une idée de ce que tu penses faire pour l'exposition. Penses pas que tu es à même de pouvoir en parler, moi?
Oui.
Actuellement, tu roules dans ce que tu fais, je t'ai satisfait de constater ton produit d'assez fort.
J'ai dit tout à l'heure, c'était la première fois que je sens que donc, ça commence à être intéressant. J'espère que ça va être plus intéressant que ça. Mais, ça commence. Comme, tu sais, Urtibé, je trouve que là, Urtibé est intéressant depuis à peu près 3 ans. Tu sais, avant, ça a pris tout ce temps-là avant de devenir bon. Je ne sais pas jusqu'à quand je vais devenir un. Ça va être bon ce que je fais. C'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir une force, tu sais. Mais là, je suis relativement satisfait. Je ne sais pas ce que ça veut dire. T'sais, dans 5 ans, j'aurai une autre vision de ça. Mais le feeling en ce moment, pour moi, c'est. Je suis bien excité, je travaille beaucoup ici. Ça fait 3 semaines, puis je n'arrive pas à m'installer, je n'ai pas encore peinturé tous les murs, je n'arrive pas à m'installer assez vite, parce que j'ai des choses à faire. Puis pourtant, il n'y a aucun débouché pour. Fait que c'est.
Comme ça que tu
m'en poses. Puis finalement, c'est tout ce que tu as fait, sauf les peintures du début,
il
n'y
a rien
qui est nécessairement
vendable,
c'est
des événements circonstanciels.
Peut-être qu'il pourrait devenir vendable, tu sais, mais enfin. Yes,
moi,
tu l'as-tu? Ça ne me dérangerait pas. Il faudrait que je pense si je continuerais à l'enseigner ou. Qui est l'enseignement pour moi. Mais ça me plaît à l'heure actuelle de penser que je vends mon argent par l'enseignement, tu sais, puis que je n'ai pas d'attache, là. Tu sais, je ne suis pas obligé de créer des objets parce que le gars de Gary me dit que, tu sais, tes petites affaires noires, là, quand il y en a 3, ils se vendent bien ceux-là, faisant donc une couple d'autres. Tu sais, tente pas d'établir ce type de choses-là. Je trouve ça le fun, ça me laisse une certaine liberté.
Puis ton espoir, parce que c'est une génération qui se forme.
Ils font l'air fort. Étant toi-même
dans l'enseignement,
je
sais pas que tu peux être, à un moment donné, un stimulant pour eux.
Pour quelques-uns, oui.
Comment tu
les
travailles quand
tu enseignes? Je leur montre des diapos, beaucoup, 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 puis je discute. Je discute de leurs choses, puis on discute des choses des autres. Mais j'ai introduit des idées dans le milieu. Le Québec, c'est un milieu très provincial, tu sais, qui est même à l'extérieur, très à l'extérieur de Montréal. Fait que même les artistes québécois, ils ne les connaissent pas. Fait que, c'est ça, j'essaie de faire. Tu sais, introduire des. Enfin, leur montrer ce qui se passe ici, en parler, parler de ce qui se fait ailleurs, puis parler aussi de leurs choses. Les forcer à être un petit peu plus analytiques,
un petit peu plus rigoureux.
Je le fais plus sur l'évolution d'un individu à l'intérieur de j'ai essayé un an. Fait qu'au bout d'un an, je sais pas mal de quelle façon ils ont évolué, d'où ils sont partis et où ils sont arrivés. Et c'est ça qu'on évalue.
Comment tu évalues ton travail?
c'est très relatif. Il n'y a pas des grands écarts. Comme dans mes notes, il n'y a pas des grands écarts. Je n'ai pas de superstar.
Non. Oh.